VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 27 février 2019. En direct de Washington, Eric Manilakiza et Anna Albertson. D'abord, le sommaire.
Le président Buhari réélu pour un second mandat à la tête du Nigeria.
Macky Sall au Sénégal, plutôt bien placé pour remporter un second mandat dès le premier tour de la présidentielle de dimanche.
Les étudiants se mobilisent en Algérie contre le cinquième mandat de Bouteflika.
Et premier conseil des ministres du président Bongo, 4 mois après son AVC.
Tête à tête ce soir au Vietnam entre le président Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un.
Et dans 10 minutes, vous suivrez votre page d'espoir et la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Réélection du président nigérien Muhammadu Buhari pour un second mandat. La commission électorale le crédite de 56% des suffrages exprimés. Ces résultats ont été officialisés très tôt ce matin. Les précisions de Jean-Roger Dion.
Le président sortant est déclaré vainqueur et est réélu, a officiellement annoncé le président de la commission électorale, Mahmoud Yakubu, aujourd'hui à l'aube. M. Buhari a gagné avec une avance de près de 4 millions de voix par rapport à son principal rival, Atiku Abubakar, à 56% contre 41%. Ces résultats sont issus des 36 États du pays et de la capitale fédérale Abuja. Mais vu l'heure tardive de la publication de ces résultats, il y avait peu de ferveur ou de célébration populaire dans le pays, même à Kano, l'un de ses fiefs. Quelques centaines de personnes s'étaient rassemblées dans le quartier général du parti au pouvoir à Abuja. De son côté, l'opposition a dénoncé des fraudes massives du parti au pouvoir pour maintenir Muhammadu Buhari à la tête du pays et avait demandé l'interruption des résultats hier soir. Toutefois, cette demande ne peut se faire que par voie de justice. Cette présidentielle de samedi n'a pas connu une forte affluence, le taux de participation étant d'environ 40%. D'après des observateurs, cette faible mobilisation pourrait affecter la crédibilité du vainqueur du scrutin, déjà entaché par des accusations de fraude. Ancien général de l'armée, M. Buhari avait déjà dirigé le Nigeria en 1983 pendant les dictatures militaires.
Au Sénégal, le président Macky Sall devance largement ses 4 adversaires à l'élection présidentielle. Les médias sénégalais ont déjà publié des résultats provisoires portant sur près de 90% des suffrages. Le point avec Abdourahmane Dia.
Macky Sall a récolté lors du scrutin de dimanche plus de 2 200 000 voix contre 1 700 000 au total pour ses 4 adversaires, indiquent les chiffres officiels des commissions départementales affichées devant les tribunaux départementaux et compilés par les médias locaux. D'après les chiffres du site Imedia, qui porte sur plus de 87% des bulletins, cela correspond à une majorité absolue de 57,26% pour le président sortant, 21,63% pour l'ex-premier ministre Idrissa Seck, 15,55% pour le député anti-système Ousmane Sonko. Le professeur Issa Sall obtiendrait 4,09% et l'ex-ministre Madi Kenya 1,47%. La participation a été de 66,5% selon une source proche du ministère de l'Intérieur. Les chiffres provisoires des 45 départements du pays et de la diaspora sont examinés par la Commission nationale de recensement des votes qui doit les publier au plus tard jeudi ou vendredi. Les résultats définitifs seront publiés par le Conseil constitutionnel après l'examen d'éventuels recours.
En Algérie, les étudiants se sont massivement mobilisés hier contre la perspective d'un cinquième mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Le pouvoir se dit déterminé à mener à bien cette candidature malgré la contestation. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Après les manifestations de masse vendredi, puis de nouveaux cortèges dimanche et lundi, les étudiants ont pris le relais hier mardi. Environ 500 étudiants se sont regroupés dans la faculté centrale d'Alger au cri de « Non au cinquième mandat, Bouteflika dégage, Algérie libre et démocratique ». Les vigiles ont dû cadenasser les grilles pour les empêcher de sortir du campus. Hors de la capitale, des manifestations ont eu lieu à Constantine, Béjaïa, Tizi Ouzou, Sétif, Guelma, Ouargla et à Oran, la deuxième ville du pays. À Anna
Rabat, à l'est d'Alger, 2000 à 3000 personnes ont défilé sans incident. Face à ce mouvement qui rappelle le printemps arabe, le directeur de campagne de M. Bouteflika, Abdelmalek Selal, a annoncé que le dossier de candidature du président sortant sera déposé le 3 mars, la date butoir. Le premier ministre Ahmed Ouyahia a fait valoir la veille que le choix devrait se faire dans les urnes. M. Bouteflika, président depuis 1999, s'est rendu en Suisse tard dimanche pour ce que son bureau a appelé des examens médicaux de routine. Depuis son AVC, il apparaît très rarement en public.
Nous y reviendrons, Yacouba, dans la seconde partie de cette édition.
En Centrafrique, plusieurs groupes armés signataires de l'accord de paix conclu au début du mois avec le gouvernement de Bangui ont salué la nomination de Firmin Grébada au poste de Premier ministre. Monsieur Grébada est aussi un proche du président Faustin Archange Touadéra.
En RDC, les partisans de l'opposant en exil Moïse Katumbi ont opté pour une opposition républicaine. Ce regroupement politique de Monsieur Katumbi, Ensemble pour le changement, avait soutenu Martin Fayoulou et tourner la page de la vérité des urnes un mois après la proclamation de Félix Tshisekedi comme président du pays.
Au Gabon, le président Ali Bongo Ondimba reprend du service. Hier, à Libreville, il a présidé son premier conseil des ministres depuis son accident vasculaire cérébral le 24 octobre dernier, alors qu'il se trouvait à Riyad. Des détails avec John Lyndon.
Les services de la communication présidentielle ont publié des photos d'Ali Bongo assis à la table du conseil qui s'est tenu au palais du bord de mer, nom donné à la présidence gabonaise. C'était le premier conseil du nouveau chef du gouvernement, Julien Gogué Bekalé, nommé en janvier, ainsi que de ses ministres. En l'absence d'Ali Bongo, le dernier conseil des ministres du précédent gouvernement s'était tenu mi-novembre sous la présidence du vice-président Pierre Claver Manganga Moussavou à la suite d'une modification de la constitution lui permettant de le faire. Lundi, M. Bongo a reçu plusieurs personnalités politiques à la présidence et est allé dans plusieurs quartiers de Libreville pour saluer des badauds de la main par la vitre ouverte de sa voiture. Victime d'un AVC le 24 octobre, alors qu'il se trouvait en Arabie Saoudite, le président Bongo rentrait dimanche soir à Libreville depuis Rabat, où il était en convalescence depuis 3 mois, n'y était revenu qu'une seule fois depuis, très brièvement, le 15 janvier. Il avait alors reçu la prestation de serment des ministres du nouveau gouvernement, Bekalé.
Crise au Soudan, les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada et la Norvège ont déploré hier le retour à un régime militaire dans ce pays. Réaction à la suite d'une série de mesures prises par le président Omar El-Béchir face au mouvement de contestation qui réclame son départ.
Le Sahel a obtenu hier à Niamey une promesse de financement de plus de 3 milliards de dollars de son programme prioritaire visant à atténuer les effets du réchauffement climatique à l'issue d'une table ronde des partenaires techniques et financiers. Cette enveloppe assure ainsi très largement la couverture des besoins de financement pour la mise en œuvre du programme prioritaire.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump a prédit aujourd'hui à la Corée du Nord un avenir génial. C'est son ami Kim Jong-un s'engage sur la voie de la dénucléarisation. Les deux dirigeants se rencontrent ce soir à Hanoï, au Vietnam. Jean-Roger Bion.
Les deux hommes doivent se retrouver pour un tête-à-tête suivi d'un dîner avec leurs conseillers. Une nouvelle rencontre est prévue demain jeudi. À quelques heures de son face-à-face à Hanoï avec le dirigeant nord-coréen, Donald Trump a tweeté « Le Vietnam se développe comme peu d'autres endroits au monde. La Corée du Nord ferait la même chose et très rapidement si elle décidait de dénucléariser. » Évoquant un potentiel génial pour le pays reclus aujourd'hui sous le coup de nombreuses sanctions internationales, il a aussi parlé d'une opportunité rare pour celui qu'il a appelé son ami Kim Jong-un. Comme on le voit, la dénucléarisation sera le sujet principal au cœur de ce second sommet. Lors de leur premier sommet en juin à Singapour, Kim Jong-un s'était engagé à travailler vers la dénucléarisation complète de la péninsule coréenne. Mais cette formulation vague et l'absence d'avancées concrètes au cours des mois écoulés ont rendu sceptiques nombre d'observateurs.
Ici à Washington, les démocrates ont remporté hier une victoire parlementaire face au président Donald Trump. La chambre basse du Congrès a rejeté l'urgence nationale décrétée par M. Trump pour construire son mur anti-immigration clandestine. Le Sénat, à majorité républicaine, doit aussi se prononcer sur cette résolution en dedans de 18 jours.
L'ex-avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a assuré hier avoir dit la vérité lors de son audition devant une commission du Sénat. C'est la première étape d'un marathon attend au Congrès où il doit être interrogé sur les liens du président américain avec la Russie et la gestion de son empire immobilier. Michael Cohen doit aussi témoigner jeudi devant la commission du renseignement de la Chambre, de nouveau à huis clos.
Au Venezuela, l'option militaire ouvertement envisagée par le président américain pour détrôner Nicolas Maduro apparaît de plus en plus limitée. Donald Trump s'est heurté à l'opposition des alliés, notamment le Canada, au premier plan du soutien à Juan Guaido et le nouveau gouvernement conservateur du Brésil. Bien que M. Maduro soit très affaibli, il s'accroche encore au pouvoir avec le soutien de la Russie et surtout de la Chine. Il faut aussi noter que l'armée lui reste globalement fidèle, malgré que l'économie du pays s'effondre et que les réfugiés affluent par millions dans les pays voisins. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Pour l'actualité économique en Afrique et ailleurs, la Minute Éco avec Nanit Talani.
L'organisation de la mise en valeur du fleuve Sénégal et la société chinoise Sinohydro ont signé un contrat d'aménagement hydroélectrique de Koukoutamba en Guinée sur le Bafing, principal affluent du fleuve Sénégal, pour 812 millions de dollars et une durée de 14 ans. Selon Financial Afrique, le projet comprend un barrage, des lignes haute tension, une route d'accès de 150 km et la cité du maître de l'ouvrage. Cette infrastructure contribuera aussi à l'agriculture, la navigation, la fourniture d'eau potable, la pêche et la préservation des écosystèmes du bassin. Le Niger envisage de mobiliser sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine une enveloppe de 60 milliards de francs CFA pour financer une partie de son programme d'investissement 2019. Appuyé par le groupe BNP Paribas, le pays lance un emprunt dénommé TPNE 6,50% 2019-2026 qui porte sur 6 millions d'obligations de 10 000 francs CFA chacune. Selon la tribune, ces obligations rapporteront un intérêt annuel de 650 francs CFA. L'opération se déroulera du 25 février au 25 mars 2019. Pour finir, la bourse de Casablanca au Maroc compte accueillir une ou deux petites et moyennes entreprises cette année. En 2018, elle n'en a accueilli qu'une seule, en l'occurrence le groupe industriel Moutandis.
Et sans transition, nous passons directement à votre page des sports. Yacouba Ouedraogo, bonjour.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On va d'abord dans les grands lacs du cyclisme pour commencer, bien sûr, avec l'acte 4 du Tour du Rwanda.
Oui, ça se court entre Rubavu et Karongi. Hier, Merawi Kudus a récidivé sur la troisième étape après avoir triomphé lundi sur la deuxième. L'Érythréen d'Astana Pro s'est imposé en 5h21 minutes 15 secondes. Au classement général, Kudus possède désormais 15 secondes d'avance sur l'Estonien Ryan Taramare et 45 sur le Suisse Matteo Badilati. Le coureur d'Astana endosse aussi le maillot de meilleur grimpeur. Celui de sprinter est sur les épaules du Sud-Africain Royan Duploy. Le Français Jérémy Bellico est le plus jeune coureur après cette étape. Joseph Ariruya garde le maillot de meilleur rwandais.
En football, l'Égypte fera face au Niger et au Nigeria sans Mohamed Salah.
Oui, Javier Aguirre n'a pas retenu l'attaquant vedette de Liverpool dans son groupe pour affronter le MENA et les Super Eagles le mois prochain. Les Pharaons joueront contre le Niger en match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2019 avant de défier le Nigeria en amical le 26 mars à Lagos. En plus de Mohamed Salah, Ahmed Egazi de West Bromwich n'est pas convoqué. En revanche, Mohamed El Neni d'Arsenal est bien là. Pour rappel, l'Égypte avait déjà arraché son ticket pour la première CAN à 24 équipes avant que la CAF ne lui attribue l'organisation de la compétition.
Le sélectionneur zambien va bientôt faire ses valises, n'est-ce pas, Yacouba?
Et oui, nommé sélectionneur de la Zambie l'été dernier, Steven Van der Breek n'est pas parvenu à qualifier les Chipolo Polo pour la CAN 2019. Par conséquent, le Belge ne sera pas prolongé au terme de son contrat qui finit en mars prochain. Le technicien restera tout de même en poste jusqu'au dernier match des éliminatoires de la CAN contre la Namibie le 23 mars.
Avant de nous quitter en Europe, le Real Madrid accueille le FC Barcelone pour deux classicos.
En jeu, une place en finale de la Coupe du Roi ce soir, puis l'issue de la course au titre samedi en Liga. Au stade Santiago Bernabéu, les deux grands d'Espagne s'affrontent deux fois en
72 heures pour décider du dénouement de toute une saison. La demi-finale allée à Barcelone s'était soldée par un match nul 1-1. En Liga, la première manche a été dominée par les Blaugrana qui ont balayé les Madrilènes 5-1 en octobre au Camp Nou. Mais depuis lors, le club merengue a été métamorphosé par son changement d'entraîneur. Avec Santiago Solari, la Maison-Blanche a retrouvé de l'allant et le Bernabeu s'est trouvé un nouveau chouchou, le Brésilien Vinicius Junior. Coup d'envoi 20h, temps universel.
C'était les sports de Yacouba Ouedraogo. Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manelakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Souvent cité en exemple pour sa stabilité et sa démocratie, le Sénégal attend la publication des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février 2019. L'annonce de la Commission nationale de recensement des votes devrait intervenir vendredi soir au plus tard, mais les différents protagonistes avancent chacun leurs chiffres. Les Sénégalais attendent avec impatience en toute sérénité. De Dakar, les précisions de Seydina Abagay.
Le vote s'est déroulé sans incident majeur et dans un climat social apaisé. Les citoyens s'en réjouissent. Abdou Salam Fall se dit fier de la mobilisation des Sénégalais dimanche dernier.
Oui, l'exclusion s'est déroulée normalement dans la tranquillité, dans la transparence et dans la sérénité. Les Sénégalais se sont votés massivement et sont exprimés librement.
Ce quinquagénaire qui a recueilli l'anonymat affirme que les citoyens ont montré une très grande maturité, mais le plus important pour lui est que le président élu soit à la hauteur des attentes.
Ça s'est passé dans de très bonnes conditions. Par rapport à ce qu'attendaient les gens disaient que bon, ça n'allait pas se passer comme ça, mais je crois que ça s'est très bien passé. Au moment que tout le monde a été conscientisé, sensibilisé et bien préparé. Que celui qui gagne, en mieux, dans l'essentiel, qu'il soit un bon citoyen pour le Sénégal et qu'il remplisse les conditions lesquelles on s'attend pour le pays.
La population sénégalaise a prouvé une nouvelle fois qu'elle est unie par-delà toute appartenance religieuse ou ethnique. C'est l'avis de Saloum Diop, enseignant, qui estime que les résultats seront fiables car les citoyens ont montré la force de leur voix en allant voter massivement.
Je remercie d'abord les califes généraux du Sénégal. Je peux dire tous les musulmans, tous les catholiques, chacun de nous a prié pour trouver la paix dans ce pays-là et que les élections se déroulent dans la sérénité. Nous remercions beaucoup le bon Dieu. Ce qui reste maintenant, je pense que tout le monde est conscient que maintenant, les quatre peuvent élire comme peuvent et faire tomber un chef d'État.
Aurélie, sénégalaise d'origine capverdienne, affirme que cette élection prouve une chose résumée en une seule phrase.
C'est bon, la paix, c'est bon.
Malgré quelques tensions nées de la guerre des chiffres entre pouvoir et opposition, les Sénégalais attendent en toute sérénité la publication officielle des résultats provisoires de la présidentielle du 24 février d'ici vendredi. Des résultats qui permettront de savoir si le président sortant Macky Sall passera au premier tour ou s'il devra aller vers un second tour contre l'ancien premier ministre Idrissa Seck ou le député Ousmane Sonko qui s'est révélé comme la star montante de la politique au Sénégal. Le rendez-vous est donc pris pour au plus tard vendredi. À Dakar, Seydina Abagay pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Tchad, la mise en place de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, divise la classe politique. La CPDC, la coordination des partis politiques pour la défense de la Constitution, dénonce le caractère sélectif dans la composition de cet organe chargé de l'organisation des élections au Tchad. André Kodmajingar donne plus de détails depuis N'Djamena.
Le président Déby a entériné par décret le 21 février la proposition du cadre national de dialogue politique désignant les personnalités membres de la CENI. Ils sont au total 30, dont 15 de l'opposition et 15 de la majorité présidentielle. Ces personnalités choisies parmi les candidats autres que les responsables des partis politiques auront la charge d'organiser les prochaines élections au Tchad. Pour le porte-parole adjoint de la CPDC, Poudi Djimel Bichara, la mise en place de cet organe est sélective.
La loi portant création de la CENI dit en son article 3, alinéa 3, voit que les membres de la CENI sont désignés par rapport à la représentation des partis politiques à l'Assemblée nationale et dans les conseils locaux. Il se trouve que les partis politiques membres de la CPDC qui remplissent justement ces conditions-là ont été écartés. D'un autre côté, dans la liste de la composante opposition de la CENI, vous avez des partis qui participent à la gestion du pays auprès du gouvernement et qui figurent sur la liste de l'opposition. En violation flagrante de la loi portant statut de l'opposition.
Kram Abel de la majorité présidentielle, les membres du cadre national de dialogue politique estiment que la CPDC est victime de ses propres turpitudes puisqu'elle a fait une mauvaise lecture des textes.
La CPDC n'a pas envoyé le dossier de représentant au CNDP. Ils ont envoyé le dossier au ministre de l'administration du territoire. Et la même loi 30 qu'ils ont citée dit que c'est le CNDP qui transmet le dossier au gouvernement. Pourquoi ils n'ont pas déposé le dossier ici? Ils sont régis par les institutions de la 4e République. Donc tu ne peux pas contourner une institution pour aller vers une autre.
Le rapporteur général du cadre national de dialogue politique Aladoum Djarma Baltazar, membre de l'opposition, réfute les allégations de la CPDC selon lesquelles la mise en place de la CENI ne respecte pas l'article 3 de l'ordonnance 40 portant un statut de l'opposition qui dit « Aide l'opposition démocratique, les partis politiques ou regroupements des partis politiques qui ne participent pas au gouvernement et ne soutiennent pas son action. »
À notre avis, la commission donc du CNDP, composant opposition, en avait étudié, discuté de la question, mais il nous a manqué d'arguments pour écarter ces partis politiques. La CPDC d'antan qui a fait progresser la démocratie s'est vidée donc de ses éléments nécessaires-là. Aujourd'hui, disent à l'opinion publique quel est le numéro de la constitution qu'ils défendent pour le simple fait que la CPDC dit ne pas se reconnaître dans la constitution de la 4e République. C'est du bluff, c'est le film habituel de la CPDC.
Avec cette querelle autour de la mise en place de la CENI, l'opposition est déjà divisée, car même la liste envoyée par son chef de file n'a pas été prise en compte. La majorité présidentielle, quant à elle, sourit en pointe et se frotte les mains. André Kodmadinga Ndjamena pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Ndjamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
En Algérie, à moins de 2 mois de l'élection présidentielle, des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes pour protester contre un éventuel 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Malgré tout, M. Bouteflika déposera le 3 mars sa candidature, a annoncé hier son directeur de campagne Abdelmalek Selal. Le point avec Anne Albertson.
Des milliers de manifestants sont descendus dans les rues d'Alger. À l'université de la capitale algérienne, de nombreux étudiants scandaient « Non au 5e mandat, Bouteflika dégage, Algérie libre et démocratique ». Les agents de sécurité ont dû cadenasser les grilles pour les empêcher de sortir du campus. De nombreux autres rassemblements ont été rapportés dans d'autres villes comme Constantine, Tizi Ouzou, Ouargla, Oran et Annaba dans le nord. Les médias arabes ont diffusé une vidéo montrant des policiers tirant des gaz lacrymogènes à Alger dimanche pour disperser des manifestations. Aucune victime grave n'a été signalée. Lundi, devant le tribunal d'Alger, un groupe d'avocats a scandé le slogan familier du printemps arabe, appelant à l'éviction du gouvernement. Dans un discours devant le Parlement, le Premier ministre Ahmed Rouyaya a déclaré que les autorités ne s'opposaient pas aux manifestations tant qu'elles restent pacifiques.
La constitution algérienne garantit le droit de se rassembler pacifiquement et jusqu'à présent, les manifestations sont restées pacifiques. Cependant, je mets en garde contre les appels à manifester de parties inconnues et qui pourraient devenir violentes.
Hier, le Premier ministre a répondu pour la première fois aux protestataires, disant que les élections auront bel et bien lieu et que chacun pourra voter librement. Monsieur Bouteflika, président depuis 1999, s'est rendu en Suisse tard dimanche pour ce que son bureau a appelé des examens médicaux de routine. Son directeur de campagne, l'ancien Premier ministre Abdelmalek Al-Selal, a déclaré dans un discours télévisé que la plupart des gens comprennent que la situation est délicate, mais il a réaffirmé que le soutien au président est encore plus fort qu'en 2014.
Il y a encore plus de signatures en faveur de la candidature du président qu'il y en avait en 2014 et cela montre une acceptation totale au niveau national pour le maintien de son mandat.
Abdelmalek Selal a annoncé ce mardi que le président déposera sa candidature auprès du Conseil constitutionnel en respectant les délais. Cependant, l'appui sans faille semble toutefois perdre de l'élan. Khatar Abou Diab enseigne les sciences politiques à l'Université de Paris.
Avant, il y avait toujours, jusqu'au quatrième mandat, une sorte d'entente tacite entre les services de sécurité, les généraux, les groupes autour du président Bouteflika, ce qu'on appelle la communauté révolutionnaire. Et maintenant, depuis l'automne 2018, on constate quand même des déchirements à travers des mesures qui ont été prises contre des généraux, contre des personnalités.
Selon lui, la situation est devenue compliquée et risque de devenir incontrôlable. Un segment des courtiers tirant les ficelles a peut-être laissé ses protestations échapper à tout contrôle. Ces forces occultes sont maintenant prises de court, car les manifestants exigent purement et simplement la fin du mandat de Bouteflika et la chute du régime.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Direction de Burkina Faso, avant de vous quitter, le FESPACO a 50 ans et comme le suggère son thème cette année, c'est le moment de confronter les mémoires et de penser l'avenir du cinéma sur le continent africain. Suivez l'un des doyens du cinéma africain, Souleymane Cissé, double étalon d'or au FESPACO et premier africain à être primé au Festival de Cannes.
Souleymane est un cinéaste malien qui a réalisé des films et qui vit au Mali. Le cinéma est un instrument incroyable et une chance extraordinaire pour nos jeunes pays. Parce qu'il y a 35 ans, avant Yélé, on disait toutes sortes de choses sur le cinéma africain. Mais après Yélé, le langage a changé complètement. Et la vision aussi a changé. C'est une certaine forme de combat, pas contre la vie, mais pour la vie. Et pour toute une génération qui me fait revivre et qui me donne la joie de vivre. J'ai trois documentaires que j'ai réalisés sur Martin Scorsese lors de son voyage au Mali et à New York. Donc je suis occupé à monter ces trois documentaires-là. J'ai invité Martin Scorsese de venir nous rendre visite à Bamako. Mais il a accepté, il est venu pendant 4 jours. Il a rencontré des jeunes, il a discuté avec des universitaires, il a discuté avec tout le monde. Donc c'est une satisfaction pour lui de découvrir l'Afrique. C'est une grande amitié parce qu'il a connu mon film avant de me connaître, Yélé. Et c'est l'admiration qu'il a eue avec ce film. Et le jour où il m'a raconté à Cannes, ben, c'était un grand plaisir, un débat incroyable, un échange. Et donc, je pense que ce trajet, il faut en faire un film, pas seulement pour que les Maliens puissent voir, mais pour que les Américains eux-mêmes puissent voir quand même qu'il y a des changes.
Moi, il y a faim, moi.
Nous sommes en retard parce que le politique n'a jamais compris que le cinéma est un instrument d'avant-garde. Moi, j'ai fait un film, j'ai fait Yélé il y a 35 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un film historique sur Modibo Keïta. Je ne sais même pas à qui au Mali m'adresser. Il est temps que nos politiques nous entendent. On n'est pas des fous, hein, contrairement à ce qu'ils disent aux gens. Le FESPACO marche. Maintenant, il faut qu'il arrive à courir. Et le cinéma africain avance doucement, c'est sûr, mais sûrement.
Souleymane Cissé, double étalon d'or au FESPACO et premier africain à être primé au Festival de Cannes.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les
amis, Roger Montou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur l'Universel dans l'émission RM Show. Au menu, de la bonne musique, des interviews avec des personnalités et des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à Jean-Roger Dion et à toute l'équipe de la rédaction. Eric Manirakiza à Washington vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.